Votre instant politique continue avec mon invité, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, et déjà trois fois, on la voit dans l'écran, déjà trois fois candidate à l'élection présidentielle. Elle nous dira comment elle veut continuer la lutte, et les manifestants se préparent. Déjà, reportage avec de Anne Sylvain sur la préparation de la future journée du 31 avec Anne Sylvain et nos équipes en région. Merci à tous.
Quel avenir pour le mouvement social après la forte mobilisation d'hier ? Parmi les manifestants, beaucoup foulaient le pavé pour la première fois et n'excluent pas d'y retourner.
C'est une première et je pense que vu autour de moi, les gens avec qui je parlais, etc., je me suis dit c'est aujourd'hui où il faut montrer une mobilisation pour éventuellement les jours à venir.
Ce matin à Rennes, nous avons promené notre micro et là encore, beaucoup de passants nous confient leur envie de se mobiliser.
Oui, il faut que ça continue. On tire dur pour se chauffer, on tire dur pour l'alimentaire. C'est un tout, hein.
Je suis content et pourvu que ça dure, parce qu'on voit bien qu'il y a tous les corps de métier qui sont représentés. Les gens se bougent dans le milieu hospitalier, les pompiers, la police.
Dès hier, les syndicats ont annoncé la couleur. Nouvelle mobilisation générale le 31 janvier. Les raffineries prévoient même de faire grève 48 heures à partir du 26 janvier et 72 heures à partir du 6 février.
Potentiellement faire un trimestre de plus.
Les instances syndicales, comme ce matin à la CGT de Nice, veulent frapper fort, à l'image du patron des cheminots.
On ne se réunit pas uniquement pour cocher le 31. On se réunit pour regarder comment nous allons établir une tactique qui permette d'établir un vrai rapport de force dans le chemin de fer. Les ports, la chimie, tout un tas de secteurs réfléchissent à la manière de durcir le rapport de force.
Bonsoir Nathalie Arthaud, vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière, merci d'avoir accepté notre Bonsoir. Invitation. Les moments de lutte sociale comme hier, est-ce que c'est une sorte de bonheur pour vous ?
Oui, c'est toujours effectivement très, très satisfaisant, voilà, de se dire qu'enfin, on a pu exprimer ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a sur la patate, parce que vous savez, ça fait des années et des années qu'on recule. On recule sur les salaires, là à une vitesse folle, parce que il y a cette flambée des prix. On recule sur nos conditions de travail aussi, et ça c'est vrai dans tous les secteurs. On recule dans le domaine de la santé, et on avait cette difficulté de réagir et finalement de protester, d'aller contester, etc. Bon, ben là, merci Emmanuel Macron. Voilà, il a trouvé le truc. Il a trouvé le truc qui a
Je vous ai rarement vu, ça fait plusieurs fois que je vous interviewe. C'est vrai que je vous ai rarement vu aussi souriante, aussi enjouée.
Bah écoutez, voilà, moi, parce que moi, je pense que la passivité, la résignation, ça ne paye pas. Pour le monde du travail. Et il faut vraiment dire ce qu'on pense. Quand on n'en peut plus, eh bien, il faut l'exprimer, il faut le dire le plus massivement possible et il faut jouer le rapport de force. Et il faut redécouvrir la force du monde du travail. On n'est pas obligé de se soumettre comme ça en permanence. Donc là, j'espère que oui, on a pris ce chemin-là de redécouvrir notre force collective et qu'on le fera reculer là-dessus et sur bien d'autres choses.
Alors justement, vous dites souvent, quand on vous fait commenter vos faibles scores à l'élection présidentielle, vous dites souvent le pouvoir ne se conquiert pas par les urnes, mais il se conquiert sur le terrain des luttes. Est-ce que ce mouvement peut être l'étincelle pour la prise du pouvoir par le peuple ?
En tout cas, ça peut être un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, parce qu'en effet, il dépend de chaque salarié, de chaque travailleur, là, de s'emparer justement de cette question.
Non mais là, c'est un coup d'arrêt pour la réforme des retraites.
Oui, un coup d'arrêt pour la réforme des retraites. Mais vous comprenez
Nathalie Arthaud,
que
vous le dites, que vous voulez que les travailleurs prennent le pouvoir et que ça se fera par la lutte. Est-ce que là, on a est-ce que vous espérez que ça soit le début de, comment dirais-je, de l'insurrection en marche?
Non,
je vous fais rire aujourd'hui.
Oui, parce que vous êtes un peu caricatural en fait. Moi, ce que je pense, c'est que en redécouvrant notre force et notre capacité, en effet, de nous faire respecter, à la fois de ce gouvernement, mais qui n'en a rien à faire. Hein. Des classes laborieuses en réalité. Moi, je me souviens quand même comment, au moment de l'épidémie de Covid, il y a eu les applaudissements, les hommages aux soignants, à la deuxième ligne, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit à ceux-là ? Bah, travailler jusqu'à n'en plus finir, jusqu'à 64, jusqu'à 65 pour avoir vos annuités, etc. Donc, voilà, c'est de redécouvrir notre capacité de dire non, de peser sur la situation et d'imposer au gouvernement que nos intérêts soient respectés. Et ce faisant, Ce faisant, bah, en effet, moi j'espère que les travailleurs... Que les travailleurs découvriront leur capacité à aller plus loin, et à dire, bah nous, c'est pas cette société-là dans laquelle on a envie de vivre. C'est pas une société où il y a de plus en plus de fric à un pôle, ou même, on peut dire que c'est scandaleux, c'est éhonté. Enfin bon, 200 milliards, la première fortune du pays. Mais qu'est-ce que c'est que ça, 200 milliards, 80 Bernard. Milliards versés aux de dividendes, versés aux actionnaires du CAC 40. Et puis là, on va aller chercher sur les retraites parce qu'il manquerait quoi, 12, 15 milliards par an.
C'est 200 milliards, faut lui prendre.
On marche sur la tête.
C'est 200 milliards, on prend tout.
Bah, en tout cas, moi personnellement, ouais, je le prendrai bien tout. Hein, voilà, je lui prendrai bien tout. Il y a pas de problème. Et puis, je pense que cet argent-là, on pourrait l'utiliser et l'investir là où on considère que c'est nécessaire et que ça amènera à nouveau du progrès pour toute la société. Parce que vous voyez, quand là, on parle du luxe de Bernard Arnault, du luxe. Moi, ça me frappe quand même que les secteurs les plus en pointe aujourd'hui dans la société, les plus prospères, ce soit le luxe, l'armement, la drogue. C'est ça la société dans laquelle on veut vivre. Il faudrait investir dans les hôpitaux, dans les transports en commun, dans les écoles. Il faudrait investir pour les EHPAD. Il faudrait, là, on changerait nos vies. Investir pour effectivement qu'on ait tous un véritable emploi, pour qu'on se tue pas au travail, mais que le travail ce soit pas l'enfer qu'on connaît dans beaucoup de secteurs, mais que ça soit autre chose. Ben oui. Donc cette vision-là de la société, on peut l'apporter et je pense qu'on peut se battre pour. Et je pense qu'en effet, si les travailleurs reprennent conscience de leur force, bah oui, on peut aller jusqu'à changer complètement la société. En tout cas, c'est une nécessité.
Alors, revenons sur le mouvement d'hier et les futures journées. La police y éradique 80 000 manifestants à Paris. Vous y étiez. Est-ce que ça vous paraît une juste évaluation ou un petit peu sous-évaluée ?
C'est très difficile à dire. Ça m'étonnerait pas que ça soit sous-évalué, mais on n'a même pas besoin, si vous voulez, de faire cette querelle de chiffres, puisque le ministère de l'Intérieur lui-même reconnaît que de toute façon c'était un record. C'est un record à l'échelle du pays aussi. 1 120 000, en tout cas.
C'est un record pour une première journée.
Pour une première journée, c'est comparable à ce qui se passait en 95, donc là où on a réussi à faire reculer Juppé à l'époque. Donc, et puis c'est assez significatif. C'est ce qu'on a vu dans les petites villes de province. Enfin, c'est impressionnant, des chiffres de 2000, de 3000, de 4000 manifestants.
15 ou 20% de la population.
Pour Annonay, pour Abbeville, pour Laon. Enfin bon, c'est énorme et avec une présence
Annonay,
très forte.
Annonay, ville d'Olivier Dussopt d'ailleurs.
Annonay, voilà, ville effectivement. Et c'est impressionnant de voir aussi la présence du privé. La présence de salariés, de petites entreprises, de moyennes, de plus grandes, mais du privé.
Vous êtes sûr ?
Oui, bien sûr. Bah, par exemple, à Annonay, hein, en l'occurrence, il y avait la présence forte d'Iveco. Iveco, hein, donc, qui fabrique les bus Iveco. Donc les chaînes étaient complètement à l'arrêt. Il y avait un très beau cortège d'ouvriers, mais il y avait des salariés de Carrefour, de SPI, de Renault, okay. de PSA hier.
Alors il y a eu du monde, y compris du privé, vous le dites, il y a eu peu ou voire pas d'incident du tout. Est-ce que vous dites bravo la police?
Non mais franchement, c'est hors sujet, c'est pas le problème.
Ah bah si, pas hors sujet.
Non.
On se disait il va y avoir des incidents, il y en a eu très peu.
Bah non, moi je me disais pas il va y avoir des incidents, je me disais on va être nombreux, on va pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et on l'a dit. Voilà, moi j'ai envie qu'on parle de ce qui s'est dit dans la manifestation. Il y avait un slogan très populaire dans cette manifestation. Le slogan très populaire, c'était « augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite ». Bah, voilà ce qu'on dit. Plus d'un million de personnes hier.
Je comprends pas pourquoi vous dites que c'est pas le sujet.
Bah parce que c'est pas le sujet, parce que voilà, on parle des à côté, mais parlons de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a des millions, plus d'un million de personnes qui ont manifesté, et sans doute plus encore qui ont fait grève hier. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Et il faut s'interroger là-dessus.
D'accord, mais on peut parler d'autres choses. Prochaine journée, le 31 janvier, c'est-à-dire dans 10 jours, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que vous auriez souhaité battre le fer tant qu'il est chaud et faire une journée plus rapprochée? Manifestement, il y a eu des différences entre la CGT et la CFDT. La CGT préférant la journée du 26 et Laurent Berger voulant que les salariés puissent reprendre des force. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense que de toute façon, pour qu'une mobilisation s'élargisse, s'amplifie, c'est ce qu'il faut faire. Mmh. Il faut faire, si on veut le faire reculer, il faut continuer, amplifier, massifier encore, qu'on soit encore plus nombreux en grève et en manifestation. Eh bien, il faut s'appuyer de toute façon sur les plus déterminés. Sur les plus déterminés, sur ceux qui sont prêts à jeter toute leur force.
Mais donc ça vous va comme date?
Donc, je pense que le 31, ça convient bien à certains, ça convient moins à d'autres. Bon, écoutez, on va faire avec. Oui. Ce que je sais, c'est que d'ici là, il y aura des initiatives de prise. Moi, j'étais en Assemblée Générale ce matin sur mon lycée. Il y avait donc beaucoup de grévistes hier. Et donc, il y aura une grève le 25 dans l'éducation nationale. Ça sera aussi l'occasion de conforter ce mouvement, de préparer le 31 également sur les retraites.
Vous voulez des journées comme ça, des grosses journées massives à intervalles réguliers mais assez séparés, ou vous souhaitez des grèves reconductibles tous les jours, comme en 95? En 95, c'est ça qui a fait reculer le gouvernement.
Il faut en tout cas que les travailleurs s'organisent et qu'ils mettent le maximum de leur force dans la bagarre.
Donc, une journée par semaine ou des grèves reconductibles? Quelle est votre préférence?
Ça sera une discussion et il faudra faire ensemble. Cela va dépendre de la combativité qu'on trouvera à tel ou tel moment. Peut-être qu'on sera entraîné par un secteur, peut-être que pour l'instant ça se construit et ça ne peut pas se faire autrement.
Est-ce qu'il faut durcir le mouvement au risque de briser l'unité syndicale, ou le plus précieux pour vous c'est l'unité syndicale?
Non, aujourd'hui clairement la force est d'être ensemble, donc il faut embarquer le maximum de monde et ça dépend.
Quitte à accepter le rythme plus modéré de chacun.
Ça dépend de chacun, mais libre au secteur et aux salariés qui veulent protester et qui veulent marquer leur combativité, de le faire d'ici le 31. Ça, c'est des possibilités qu'il y a et j'espère qu'elles seront prises. Alors, je ne sais pas par quelle, peut-être par l'énergie, peut-être par la SNCF, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est des possibilités. Ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, la question, c'est que tous ceux qui ont fait grève, qui sont mobilisés, eh bien, il faut qu'ils se construisent un réseau, qui aille voir les autres, qui les entraîne,
qui les évangélise.
Pour que le 31, on soit encore plus fort, parce qu'on peut le faire reculer. Et ça, moi j'ai été frappée parce que j'ai eu cette discussion-là avec des collègues, avec des camarades de travail. Ils disaient, moi je vais faire cette journée pour dire non, pour dire que je trouve ça injuste, que je trouve ça intolérable, que c'est même, c'est grossier. C'est grossier d'aller prendre, de rajouter 2 ans de travail alors qu'il y a de l'argent dans la société, etc. Mais je ne crois pas qu'on puisse le faire reculer. Voilà, donc on a eu cette discussion-là.
Et vous le dites, on peut.
Eh bien moi, là, oui, avec la mobilisation de hier, clairement, je dis qu'on peut. Et ça, il faut en être convaincu. Et ça dépend, et ça, c'est à construire. Et ça dépend de chacun.
On va parler un peu politique. Je voudrais vous montrer une image et vous la faire commenter. C'était au gymnase Japy, je crois que c'était mardi. On voit les partis de gauche réunis. On a vu Mathilde Panot pour LFI. On voit Marine Tondelier pour les Verts. Fabien Roussel pour le PC. On voit Olivier Faure pour le PS. On a vu Fabien Ruffin pour les... François Ruffin, pardon, pour les Insoumis. Ça a de la gueule, non ? Quand on est de gauche.
Écoutez, moi, ça me rappelle surtout la gauche plurielle qu'on a vue et revue. Voilà, moi, je ne pense pas qu'en effet, c'est ce qui nous permettra de changer la situation. Voilà, tout simplement. Ça a été aussi tous les sacrifices de fait sur la flexibilité. Ça a été le début des exonérations en veux-tu, en voilà, qui sont faits au patronat et qui ont d'ailleurs creusé le trou des caisses des retraites, entre autres. Donc voilà, parce qu'à un moment donné, il faut être clair. Et la question de fond qu'il faut se poser, c'est pas seulement Macron, changer Macron ou je ne sais qui au pouvoir. C'est la question de qui on fait payer. Les intérêts de qui est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on défend les intérêts des grands actionnaires, du grand patronat, de quelques grandes fortunes, ou est-ce qu'on défend les intérêts des travailleurs?
Donc vous, on ne vous verra jamais sur cette image avec les autres. Là, on va peut-être la revoir, on ne vous verra jamais marcher avec les responsables de gauche.
Ça m'est arrivé de faire des manifestations, et d'ailleurs, on était ensemble hier, et on sera encore ensemble dans plein d'autres manifestations. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas cette politique-là que je porte, parce que je ne pense pas qu'on puisse changer la société par en haut, parce que tant de de fois, on nous a fait croire à un changement de président de la République qui allait tout changer, même Hollande. Écoutez, Hollande, il a ouvert la voie à Emmanuel Macron.
Mais alors là ?
Vous savez, moi, sur les retraites, là où j'ai beaucoup, beaucoup reculé, c'est avec la loi Touraine. Avec les 43 annuités, voilà, parce que moi je suis née en 70, hein, et donc bah voilà, le mal était déjà fait par les très chers socialistes, vous voyez. Moi je l'ai en tête ça.
Le très cher Philippe Poutou, votre camarade du NPA, je l'ai reçu, il était à votre place, et lui il a dit, on a regardé ce qu'il avait dit, oui, il disait envisager des actions avec la France insoumise, se rapprocher avec la gauche antilibérale, pas avec François Hollande, avec la gauche anti-libérale. C'est inenvisageable pour vous ?
Non, mais moi, je pense que la force, elle viendra des travailleurs eux-mêmes et de leur capacité de faire jouer le rapport de force.
Est-ce que est envisageable de vous rapprocher de la gauche anti-libérale,
non,
comme le dit Philippe Boutou ?
Jamais, jamais. Moi, je dirais qu'il suffit de changer de majorité au Parlement pour forcer le grand patronat à relâcher son étreinte sur toute la société.
Donc, si demain,
aujourd'hui, vous savez, je termine là-dessus. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? C'est qu'au-delà d'Emmanuel Macron, encore une fois, c'est qu'on a une grande bourgeoisie qui n'a jamais été aussi riche et qui veut plus rien payer. Rien pour les retraites, rien pour les hôpitaux, rien pour les salaires. Ils veulent plus rien payer.
Réalité,
on les fait payer comment ? Comment on les fait-on payer ? Par une loi ? Non, ça ne marche pas comme ça.
Alors,
c'est un rapport.
Concernant cette situation que vous décrivez et que vous dénoncez, pour vous, que ce soit Macron, même Mélenchon, pour vous c'est pareil. Parce que,
mais Mélenchon, il a déjà été au gouvernement. Écoutez, il a été secrétaire d'État
il y a 20 ans.
Sous Lionel Jospin, il y a 20 ans.
Macron-Mélenchon, même combat.
Et vous savez, le modèle.
Mais vous dites que ça ne changerait rien.
Vous êtes dans la caricature
mais non,
en permanence.
Vous dites que ça ne changerait rien.
Ça ne changera rien. J'ai en tête qu'effectivement, il a déjà été au pouvoir et qu'un de ses grands modèles.
Il a été ministre.
Un de ses grands modèles.
Il a été ministre délégué de Lionel Jospin qui était au pouvoir. Là, il a dit élisez-moi Premier ministre. Si demain, admettons-le, les retraites, ils doivent renoncer. Il y a une dissolution et il y a de nouvelles élections. Si Jean-Luc Mélenchon est patron de la NUP à nouveau, pour vous, c'est pareil. Qu'il gagne ou qu'il perde, pour vous, c'est pareil.
J'espère surtout que si il recule, eh bien là, dans le monde du travail, on s'organisera pour aller plus loin sur la bataille des salaires.
Vous pouvez pas me
répondre. Je vous réponds. Parce que vous, ce que vous me dites, c'est que l'issue...
Je veux savoir. Mélenchon,
laissez-moi
Macron,
répondre.
C'est pareil.
Laissez-moi répondre. Vous me dites que l'issue, finalement, de ce recul, ça débouchera sur une dissolution à l'Assemblée nationale et de nouvelles élections. Je pense que ça ne sera pas ça la perspective. Je pense que si on est capable de le faire reculer, si on réalise la force que nous, les travailleurs, nous avons parce que nous faisons tout fonctionner dans la société, j'espère qu'on s'en servira pour nous organiser et pour aller plus avant sur les salaires, parce que c'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui sur les salaires, de s'appauvrir alors que tous les prix sont en train de flamber. Voilà, c'est inadmissible de voir que le produit de notre travail, de notre labeur, ils partent dans...
Donc
on avancera là-dessus et que
un
ce combat-là...
même de gauche antilibérale ne
sert
à rien.
C'est pas une perspective. C'est
d'accord.
Absolument pas une perspective pour nous.
Question simple, il nous reste une minute. La France, pas l'OTAN, la France, notre pays, la France doit-elle livrer des chars lourds à l'Ukraine ?
Non. Non, il faut arrêter avec cette surenchère guerrière qui... Qui nous rapproche clairement d'une guerre générale.
Mais donc on laisse. Là, il y a une grande partie de l'Ukraine qui est envahie par la Russie. On bouge pas.
Moi, j'ai été très clair, c'est-à-dire que l'invasion par Poutine de l'Ukraine, je la dénonce. C'est terrible.
Mais
en même temps, ce que je sais aussi, c'est que ça, c'est le produit d'un bras de fer, c'est le produit d'une rivalité, c'est le produit finalement d'une lutte pour la suprématie entre la Russie d'un côté et puis l'OTAN et derrière, bien sûr, les États-Unis. Donc il ne faut pas être naïf par rapport à tout ça. Il ne faut pas être naïf. Donc non, surtout, arrêtons avec ça. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'argent pour l'armement. Ben, là aussi, il faut arrêter.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. On est en retard comme tous les soirs. Merci à vous dans un instant. Les informés avec Jean-François Equilly, on se retrouve lundi. Merci, bonsoir.